Premier jour du déménagement d'Aircale de Magenta vers Tontoutain, un jour sans vol. Les aérodromes sont bloqués par les collectifs d'usagers dans les îles. Dans ce journal, comme chaque lundi, vous retrouverez évidemment la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Mise en route du projet Lucie, bilan de production 2025 et discussion avec un éventuel repreneur. Le président de PRNC, Thibault Martelin, était ce matin notre invité à 7h30. Deuxième jour de guerre entre la coalition américano-israélienne et l'Iran. Les bombardements ont repris sur Téhéran, qui riposte aussi en visant Israël et plusieurs pays de la région. Une guerre qui pourrait avoir des répercussions économiques. L'Iran tente de bloquer le détroit d'Ormuz, par lequel transite une grande partie du trafic mondial de pétrole. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Le sport, il en sera question dans le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Duneski.
Bonjour Jean-François.
Ce sera retrouvé dès la fin de cette édition. Nous parlerons notamment football pour faire un point sur la nouvelle journée de Ligue 1.
Oui, la 24e journée du championnat de France qui s'est terminée sur un duel épique des Olympiques quand Marseille renverse le match et s'impose face à Lyon 3-2. Les deux clubs vont batailler jusqu'au bout pour la 3e place du championnat de France. Et pour Comboiré, c'est un retour réussi. À Paris, le PFC a gagné son match contre Nice 1-0 et déjà une place au classement après l'arrivée du coach calédonien.
Nous ferons le point aussi sur un autre championnat, celui de top 14 de rugby. Et puis c'était aussi ce week-end la reprise de la saison de MotoGP.
Oui, première sensation de la saison en Thaïlande. Le week-end de quasi parfait de Marco Bezzecchi qui l'emporte quand l'intouchable Marc Marquez doit abandonner sur crevaison comme un parfum de révolution dans l'air. Et le sentiment pour les Français qu'elle sera encore longue cette saison en queue de peloton. Zarco et Quartararo se classent respectivement 11e et 14e.
Côté calédonien, nous reviendrons sur les principaux résultats du week-end et avec nos invités, nous parlerons haltérophilie.
Oui, au lendemain de la première manche du championnat territorial qui se déroulait au Mont d'Or, nous ferons le point sur les prochaines échéances qui approchent pour nos meilleurs représentants et nous ferons un tour d'horizon de la discipline qui a mis les bouchées doubles pour continuer également d'attirer les jeunes pratiquants. Nos invités seront Kevin Liquitine, le président de la Ligue calédonienne, et Marcus Meozzi, l'entraîneur de la sélection calédonienne.
Un Mac des sports à retrouver donc dès la fin de ce journal. Une nouvelle page s'ouvre pour Air Calédonie, mais sans passagers pour l'instant pour l'écrire. Ce lundi, la compagnie a officiellement quitté Magenta pour opérer depuis Tontouta. Les mobilisations dans les îles ont cloué au sol les premiers vols domestiques. Vous vous êtes rendu sur place à Tontouta ce matin. Léo Fichou, un constat s'impose. Les équipes sont bien en place, mais le terminal domestique est vide.
Oui, une étape importante dans l'histoire d'Air Calédonie, un transfert logistique majeur, symbole d'une nouvelle organisation. Mais cette journée inaugurale se déroule dans une atmosphère inhabituelle, celle du silence, de l'attente aussi, en cause, vous le disiez, des mobilisations et des blocages illimités des collectifs d'usagers qui touchent les aérodromes des îles Loyauté. Conséquence directe, aucun vol n'a pu être assuré ce lundi vers et depuis Ouvéa, Marais, Lifou et l'île des Pins. Dans le hall de l'aéroport de Tontouta, le contraste est assez frappant. Les agents d'Air Calédonie sont bien présents, en uniforme et à leur poste. Ils sont prêts à accueillir les premiers passagers, mais les comptoirs restent vides. Aucun enregistrement, aucun appel d'embarquement, aucun flux non plus de voyageurs. Une situation paradoxale pour ce premier jour censé symboliser un nouveau départ. On notera tout de même que la direction d'Air Calédonie et celle de l'aéroport de la Tontouta étaient ce matin en réunion pour tenter de débloquer la situation.
Une semaine qui s'annonce donc galère côté transport pour les habitants des îles. On ne sait donc pas quand le trafic Aircal va pouvoir reprendre. Et le Betticho, lui, est indisponible au moins pour la semaine, nous a expliqué le directeur de la Sud-Île, Édouard Castin.
Pour le moment, on est dans la phase de maintenance, c'est-à-dire que, comme vous savez, on a un moteur qui est hors service. Il y a un autre moteur qui est en route d'Australie qui arrivera d'ici une quinzaine de jours pour le remplacer. Par contre, on a une alerte sérieuse sur deux autres moteurs lors de la dernière rotation pour UVA la semaine dernière. Du coup, on a décidé d'arrêter le navire pour vraiment corriger ces problèmes parce que, comme vous pouvez penser, si on a d'autres moteurs qui ont des problèmes, on va être obligé d'arrêter le bateau pour une période assez longue. Donc là, on est en train de finir les interventions. D'ici demain après-midi, on espère pouvoir faire les essais en mer pour vérifier que tout va bien sur les trois moteurs restants du bateau. Et si tout va bien, on essaiera de reprendre ce week-end. Mais tout ça est soumis au résultat des essais de demain après-midi.
Voilà, donc pas de reprise du Betticho probablement avant ce week-end, pardon, et pas de vol Aircal en raison du blocage des aérodromes dans les îles jusqu'à nouvel ordre. On va poursuivre ce journal avec le rendez-vous du lundi. Il s'agit bien sûr de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
C'est vraiment à ne plus rien y comprendre. On peine aujourd'hui à savoir qui est pour Bougival et qui est contre. A priori, l'UNI est pour. Ses élus et négociateurs défendent même inconditionnellement l'accord signé le 12 juillet et son accord complémentaire Élysée-Oudinot. Mais voilà que son leader historique est contre, absolument contre. Il a mis 8 mois à s'en apercevoir, ou en tout cas à le faire savoir. Mais Paul Nyaoutine y est allé franchement pour dire à quel point il est opposé à ces accords qui, à l'en croire, ferment la porte à la pleine souveraineté. A priori, Calédonie Ensemble est pour. Le parti est signataire de Bougival et de son accord complémentaire. Mais voilà que son leader Maximo est contre. Philippe Gomez, qui ne devrait plus avoir la voix au chapitre puisqu'il est inéligible, ne se prive pas de dire tout le mal qu'il pense d'un accord qu'il qualifie de mort-né, et notamment de son accord complémentaire qu'il s'est refusé à signer. Le problème, c'est que Philippe Dunoyer, son fidèle second, a, lui, apposé sa signature au bas du document. A priori, le groupe Les Républicains du Sénat est pour, et il a même contribué largement à l'adoption du projet de loi constitutionnelle par la Haute Assemblée. Mais voilà que le sénateur calédonien Georges Naturel, qui est membre de ce groupe, est très réservé sur Bougival, au point qu'il s'est abstenu sur le texte. Je vous le disais, c'est à ne plus rien y comprendre, sauf que l'on découvre jour après jour que des personnalités rejoignent le front du refus initié par l'UCF-LNKS. Et cela n'augure rien de bon parce que les parlementaires qui auraient pu être enclins à approuver un accord qui faisait quasiment consensus chez les Calédoniens risquent de traîner les pieds pour approuver la réforme constitutionnelle. On sait que l'étape de l'Assemblée nationale sera très difficile à franchir et l'on ne parle même pas de celle du Congrès du Parlement s'il est réuni à Versailles. Mais rien n'est encore joué et plusieurs voix s'élèvent pour appeler à l'adoption de la réforme constitutionnelle. S'il n'y a plus l'accord de Bougival, que restera-t-il ? Interroge le Premier ministre, pour qui le statu quo n'est pas une option viable. Sébastien Lecornu qui rappelle au passage que par 3 fois, les Calédoniens ont dit oui au maintien dans la France. De la même manière, la ministre des Outre-mer appelle à donner une chance à ces accords, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, prévient Naïma Moutchou, l'alternative à un processus politique ouvert n'est jamais l'attente tranquille, c'est l'incertitude. Et la chef de file des loyalistes, Sonia Baquès, s'adresse elle aussi aux parlementaires dans une interview au Figaro pour leur dire que les députés qui ne voteront pas l'accord de Bougival donneront raison à ceux qui ont tout cassé lors des émeutes du 13 mai. Et puis cette séquence a aussi permis de rétablir une vérité, et on ne sait pas si Paul Nyaoutine l'a fait exprès ou si cela lui a échappé. Dans son communiqué d'opposition à Bougival, le président de la province Nord revendique le gel du corps électoral qu'il a lui-même négocié en 2023 à Koné avec Jacques Chirac. En 2023, c'est-à-dire 5 ans après la signature de l'accord de Nouméa et son approbation par 72% des Calédoniens. En 1998, on le sait, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant, l'accord de Nouméa institue un corps électoral glissant sur 10 ans et le gel du corps électoral n'est donc intervenu que bien plus tard. Il a été adopté en 2007 par le Congrès de Versailles, sans consensus, puisque les partisans de la France y étaient fortement opposés. L'aveu est de taille et il prouve bien que l'accord de Nouméa a été dévoyé au profit des indépendantistes. Ce fut le résultat d'un passage en force de l'État, et c'est aujourd'hui de sa responsabilité de dégeler le corps électoral, ce que tentent les accords de Bougival et Élysée-Oudinot. Si bien que l'on a presque envie de paraphraser Manuel Valls pour dire qu'aujourd'hui, c'est Bougival ou le chaos.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, elle est à retrouver sur notre site internet ou à réécouter cet après-midi juste après le flash de 16h. Il est 11h40, on va marquer une première pause dans ce journal. On se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Nous entendrons le président de Prony Resources qui était ce matin notre invité à 7h30.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslégales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Rendez-vous à l'Hyper Auto Show du groupe Jandot sur le parking du centre commercial Hyper Upaïta du samedi 28 février au dimanche 8 mars. Plus de 10 marques représentées, des nouveautés hyper exclusives, des déstockages hyper massifs, des promos hyper intéressantes, des jeux, des animations et des solutions de financement. Ce serait hyper dommage de rater ça. L'Hyper Auto Show jusqu'au 8 mars au centre commercial Hyper Upaïta, un salon organisé par le groupe Jandot. Plus d'infos sur la page Facebook. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Vendredi dernier, Prenez Ressources a inauguré son projet Lucie. Lancé il y a plusieurs années, il permet désormais à l'industriel de stocker ses résidus à sec et non plus de manière liquide dans le barrage KO2. Un investissement de 60 milliards de francs qui assure un stockage sur des résidus qui pourraient en plus être valorisables, nous a expliqué le président de PRNC, Thibault Martelin. Il était ce matin notre invité à 7h30.
Nous avons un peu plus de 10 ans. Okay. Sur le confortement, sur la partie aval de l'actuel barrage. À terme, en fait, ce sont des résidus qui se manipulent comme les stériles miniers et qui seront donc stockés dans des zones à réhabiliter, soit en comblement de fosses, soit sur des réaménagements paysagers qu'on pourra avoir, sous réserve de pouvoir maîtriser toutes les eaux de surface. Ensuite, sur la valorisation de ces déchets, comme c'est un nouveau produit, à date, on a très peu d'informations sur notre possibilité de le valoriser. On va commencer à regarder ça parce que c'est vrai qu'on a un matériau quasiment inerte qui est sec, donc transportable. Il est plus sec que le terrain naturel, c'est-à-dire qu'on aura pratiquement 20% d'humidité quand le terrain naturel en compte 40% et très riche en fer avec plus de 70% d'oxyde de fer sous forme hématite qui pourrait peut-être intéresser certains industriels.
Avec Thibault Martelin, nous avons évoqué l'état de santé économique et celui de la production de PRNC. Alors que des discussions sont en cours avec un éventuel repreneur, l'industriel peut s'appuyer sur de bons résultats 2025, voire des résultats encourageants.
Nous avons pu fêter 3 records en 2025. Un record de production usine en septembre, un record de production mine en octobre et également un record de production annuelle avec un peu plus de 36 000 tonnes sur l'année 2025, alors même que l'usine avait été arrêtée 8 mois en 2024, ce qui montre en fait une résilience extraordinaire de cette usine, une capacité de remobilisation des équipes qui a été très forte et je les en remercie. D'un point de vue financier, sans noyer tout le monde avec des chiffres, cette société a été en grande difficulté financière et a pu être financée grâce au concours de l'État français, sous réserve de pouvoir trouver un nouvel actionnaire. C'est ce qui avait été décidé en tout début 2024, où nous avons bénéficié d'un premier prêt d'État. Malheureusement, ce prêt a servi pratiquement exclusivement à couvrir les charges de mise en sécurité pendant l'arrêt forcé de mai à décembre 2024. Il a fallu donc que l'on demande et qu'on finisse par obtenir un nouveau prêt d'État, en deux temps en fait. Le dernier date de juillet 2024, devait nous permettre de tenir jusqu'à conclusion d'un accord transactionnel avec un nouvel actionnaire. Nous sommes toujours sur cette enveloppe.
Et le président de PRNC confirme donc que des discussions sont en cours avec un repreneur intéressé.
Les discussions continuent à avancer. C'est un deal qui aujourd'hui est mené par la Banque Rothschild et par l'État français, qui est venu à notre secours à plusieurs reprises pour améliorer notre trésorerie. La France devait se doter d'abord d'une loi de finances, donc ça s'est fait enfin, mais très récemment. Les discussions pourront aboutir, je pense, dans les prochaines semaines. La condition en fait qui avait été fixée, et quel que soit le repreneur, et j'ai l'impression que ça ne concerne pas que PRNC, était assortie également de conditions traitables beaucoup plus localement, en particulier un accès à une énergie meilleur marché, et puis également à pouvoir diversifier nos revenus en exportant le minerai fatal qui ne serait pas valorisable dans nos usines. Il paraît plutôt normal de pouvoir valoriser ce minerai plutôt que de le jeter. Ça concerne également d'autres minerais que l'on pourrait peut-être concentrer et valoriser. Je pense à de la chromie. Il y a d'autres revenus complémentaires à aller chercher et on y travaille. Pour cela, il faut modifier le code minier qui aujourd'hui, à l'intérieur des réserves métallurgiques, interdit l'export de minerais.
Notez que la question d'une augmentation de l'exportation de minerais non valorisables en Calédonie sera étudiée demain par les élus du Congrès. Thibault Martelin qui estime par ailleurs qu'il faut attendre encore quelques semaines pour connaître le positionnement du repreneur. Une interview que vous pouvez retrouver sur notre site internet en intégralité, rrb.nc. L'actualité de la campagne des municipales et la liste Uni Solidarité d'Umbéa a présenté son programme ce matin. Conduite par Daniel Gouaener, cette liste estime qu'il faut davantage responsabiliser les administrés pour contribuer au vivre ensemble, Nicolas Legrand.
Oui, elle compte mener une politique de proximité en se basant sur le tissu associatif notamment. Son programme repose sur trois axes, une gouvernance et une solidarité économique, la reconstruction responsable et la solidarité sociale, et enfin la réhabilitation et la solidarité territoriale, le volet social qui est donc un enjeu majeur de cette campagne, selon la tête de liste Daniel Gouaener.
C'est un enjeu majeur pour toute la Nouvelle-Calédonie, je dirais. Le contexte économique aujourd'hui fait qu'il faut être solidaire entre nous. On ne peut plus se permettre de simplement se tourner vers les collectivités, parce que les collectivités aujourd'hui ont beaucoup de difficultés, on l'a vu dernièrement avec le budget de la Nouvelle-Calédonie, et les communes, automatiquement, elles seront impactées. Donc il faut faire appel à la solidarité de chacun et responsabiliser les citoyens. Nous, on parle de solidarité, mais surtout de responsabilisation. Parce qu'on ne peut plus faire comme avant. La Nouvelle-Calédonie n'a plus les moyens, et les communes encore moins. Et encore moins la commune de Dimbéa.
L'UNI qui souhaite par exemple travailler sur l'aménagement des squats sur la commune de Dimbéa. Elle compte donc aménager les zones d'habitat précaire en goudronnant les routes et en apportant eau et électricité.
Pour nous, il faut déjà cartographier les squats. Savoir exactement quelles sont les familles qui vivent là, pourquoi elles sont là. Et puis, les comptabiliser, cartographier pour dire « mais pourquoi vous êtes là ?» J'avais fait ce travail-là déjà pour la continuité pédagogique lors du Covid, mais aussi après, lorsque j'étais au gouvernement avec le président Mapou. Il nous avait demandé d'aller justement dans les squats pour essayer de voir pourquoi les gens étaient là. Beaucoup de gens sont dans les squats pour des raisons économiques, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder à un logement, même social. D'autres sont là aussi par choix de vivre avec les petites cultures à côté, voilà, continuent à vivre comme s'ils étaient à la tribu. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont là parce qu'ils ont des problèmes aussi. Et ça, il faut que nous, on en parle. Il faut qu'on en parle, nous, la société Kanak. On a aussi des gens qui sont là parce qu'ils ont des difficultés au niveau du foncier, au niveau clanique, au niveau coutumier, dans l'intérieur ou dans les îles.
Et durant cette campagne, la liste Uni Solidarité d'Umbéa souhaite convaincre les abstentionnistes d'aller voter. En 2020, seuls 45% des électeurs d'Umbéa se sont déplacés aux urnes au second tour. À d'Umbéa, une autre liste indépendantiste est présente et elle est menée par Rachel Hocher, soutenue par le FLNKS. Je rappelle que le maire sortant, Johan Lecourieux, conduit la liste d'Umbéa avant tout. Cynthia Jean présente la liste Unir pour l'avenir. Vaïmoua Mouliava mène la liste d'Umbéa collectif et Muriel Malfar-Paouga conduit quant à elle la liste passionnément d'Umbéa.
Et le CTOS souhaite faire porter sa voix lui aussi dans cette campagne municipale. Le mouvement sportif calédonien a adressé un message à l'ensemble des candidats engagés en appelant à ériger le sport comme grande cause municipale. Christophe Davin est le président du CTOS.
C'est vrai qu'on a lancé un plaidoyer, mais ce plaidoyer est avant tout un plaidoyer national lancé par le CNOSF. Il a fallu que pour nous, ce plaidoyer, on l'adapte à la Nouvelle-Calédonie par rapport à notre situation particulière. Le plaidoyer est vraiment pour que le mouvement sportif soit pris en compte dans ces élections et que on puisse, avec l'ensemble du mouvement sportif dans chacune des communes, créer et mettre en place un vrai pacte sportif. C'était vraiment un espoir de notre part, même si parfois on a été interpellés et qu'on a pu donner un petit peu la vision que l'on avait. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu les différents programmes et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont mises dedans et que on s'aperçoit parfois que les programmes, je veux dire, ne sont sans doute au niveau du sport, sur certains points, sont difficilement réalisables. Donc c'est pour ça qu'il était important pour nous qu'on puisse présenter et lancer, je veux dire, ce plaidoyer avec 10 propositions qui sont vraiment de dire que quand on met en place une politique communale, il faut que le mouvement sportif, quel qu'il soit associé parce que le sport a une place importante dans les communes.
Et le mouvement sportif a publié plusieurs propositions destinées aux membres des listes engagées dans la campagne.
C'est vraiment de construire au sein de chaque commune un projet sportif local. Et dans ce projet sportif local, c'est revenir sur la place que la commune souhaite donner au sport. C'est aussi, l'utilisation, la rénovation des équipements sportifs et surtout, la place du club au sein d'une commune et enfin, les démarches qui peuvent être entreprises vis-à-vis du bénévolat parce qu'on sait très bien que si le sport existe en Nouvelle-Calédonie, c'est parce qu'il y a des clubs et que ces clubs, de toute façon, ont des bénévoles. Si les bénévoles ne sont pas accompagnés, ne sont pas aidés, il sera, de plus en plus flagrant dans chacune des communes que les clubs démissionnent, que les responsables démissionnent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'un pacte sportif local soit mis en place avec les équipes qui vont sortir des urnes.
Et le CTOS appelle donc à préparer ce nouveau pacte sportif territorial entre les communes et le mouvement sportif, vecteur, dit-il, de progrès pour tous. Il est 11h50, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité à l'étranger. Nous ferons le point complet sur le deuxième jour de guerre entre la coalition américano-israélienne et l'Iran.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite de votre journal d'actualité internationale avec Jean-François Bodin.
Avec ce deuxième jour de frappes américano-israéliennes sur l'Iran et de répliques de la part du régime de Téhéran, la guerre se poursuit. L'Iran réagit aux frappes qui ont tué ce week-end la plupart des dignitaires au pouvoir, dont le guide suprême, plus haute autorité religieuse du pays, l'ayatollah Ali Khamenei. Le pouvoir iranien s'est réorganisé avec un triumvirat censé gérer la transition composée du président iranien Massoud Pezeshkian, d'un chef de pouvoir judiciaire et d'un autre du pouvoir religieux. Ils ont ordonné une riposte militaire qui a essentiellement visé Israël ces dernières heures. C'est ce que confirme le correspondant permanent d'Europe 1 à Tel Aviv, Frédéric Simon.
Après une interruption de plusieurs heures, les tirs de missiles iraniens vers Israël ont repris. Il y a une vingtaine de minutes environ, l'un d'entre eux s'est abattu sur une localité des environs de Jérusalem. 5 personnes auraient été atteintes. On ne dispose pas, à l'heure qu'il est, de davantage de précisions sur la gravité de leurs blessures. Plus tôt dans la journée, 9 personnes avaient été tuées lorsqu'un missile s'était abattu sur un bâtiment de la ville de Beth Shemesh, dans le centre du pays. Un bilan très lourd et qui risque de s'alourdir, puisque 11 personnes sont portées disparues. Les services de secours sont toujours à la recherche d'éventuels survivants qui pourraient être ensevelis sous les décombres. Les Israéliens sont d'autant plus choqués que la plupart des victimes avaient suivi scrupuleusement les consignes des autorités et que le bâtiment dans lequel elles s'étaient réfugiées servait d'abri public. La défense antiaérienne de l'État hébreu est réputée pour son efficacité, mais elle n'est pas hermétique. 10% environ des missiles tirés depuis l'Iran ne seront pas interceptés.
Et Israël n'est pas la seule cible des ripostes iraniennes. Elles ont aussi visé plusieurs pays de la région, confirme Frédéric Simon.
L'Iran s'en est pris également à ses voisins du Golfe Persique qui pourtant s'opposaient à ce que les États-Unis et Israël frappent le régime des Mollahs. Environ 170 missiles et plusieurs centaines de drones ont été projetés vers les Émirats arabes unis où 3 travailleurs étrangers ont été tués. Une plateforme gazière a été endommagée ainsi qu'une base navale dans laquelle se trouvaient des forces françaises. Là aussi, ce sont des drones qui ont provoqué les dégâts. Les tirs de missiles ont fait plusieurs blessés au Koweït et au Bahreïn. Quant à l'Arabie Saoudite, elle affirme aujourd'hui avoir repoussé une attaque iranienne. Enfin, le sultanat d'Oman, qui faisait office de médiateur entre l'Iran et les États-Unis au cours des pourparlers, a lui aussi été pris pour cible.
Et Dubaï aussi a été touché par des drones au premier jour de cette guerre ce week-end. Les aéroports à Dubaï sont fermés et la population est invitée à rester chez elle. Rafik est un Français résident à Dubaï.
La consigne est claire, il faut rester à l'abri, s'éloigner des fenêtres parce que la situation toujours en cours, même au moment où je vous parle, on entend encore des booms et des interceptions. Par exemple, moi j'ai dormi dans le couloir de mon appartement, on a tous dormi par terre pour se tenir à l'écart des éventuelles projections des fenêtres. À l'heure actuelle, tous les aéroports sont fermés, il restait la solution omanaise qui s'est fermé puisque, comme vous l'avez dit, je pense, plus tôt dans la matinée, Oman a été la cible de bombardement. Donc aujourd'hui, non, il n'y a plus aucune solution pour rentrer en France.
Voilà donc le témoignage de ce Français résident à Dubaï. Et les frappes américano-israéliennes sur l'Iran ont provoqué aussi des manifestations un peu partout dans le monde. Manifestations de soutien de la part des Iraniens expatriés. Des scènes de liesse jusque dans les rues de la capitale iranienne, Téhéran. « Voilà la liesse des Iraniens. Alors que le régime a été décapité au premier jour des frappes, puisque les principaux dirigeants ont été éliminés, y compris le guide suprême Ali Khamenei. Une opération préparée depuis longtemps par les Américains et les Israéliens. Sébastien Le Belzic.
Depuis des mois, la CIA tissait sa toile, patiemment, méthodiquement. Les agents américains avaient cartographié les déplacements de Khamenei, ses habitudes, ses routes, ses refuges. Ils savaient où il dormait, où il travaillait. Et ce samedi matin-là, ils savaient exactement où il se trouverait. L'information est transmise aussitôt au Mossad israélien. Le message est clair, il faut frapper maintenant. Les avions décollent à 6h du matin, heure israélienne, peu d'appareils, mais armés de munitions longue portée, haute pression. 2h30 plus tard, plus de 30 missiles frappent le complexe gouvernemental. Toute la crème de l'état-major iranien réunie au même endroit, au même moment, est alors décapitée. Khamenei lui-même est parmi les victimes. Ce niveau de précision ne s'improvise pas. Ces réseaux de renseignement ont été construits sur des années et affinés lors de la guerre des 12 jours en juin dernier. Les Américains avaient observé comment le guide suprême communique, comment il se déplace, comment il se cache. Tout était analysé avec la patience d'un prédateur. Ce matin-là, dans le jargon militaire, Israël a réalisé ce que l'on appelle une surprise tactique.
Et cette guerre n'en est probablement qu'à son début. Le président américain parle d'une opération d'au moins 15 jours qui devrait aussi avoir des répercussions économiques. Et l'Iran fait tout en effet pour fermer le détroit d'Ormuz par lequel transite une grande partie du trafic de matières premières mondiales, notamment du pétrole. Charles Bouchin pour Europe 1.
Le détroit d'Ormuz est en fait la principale artère du commerce pétrolier mondial. Chaque jour, 20 millions de barils transitent par ce point de passage. C'est un cinquième de la consommation mondiale. La majeure partie des exportations d'or noir partent de l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Koweït et les Émirats Arabes Unis. Le monde entier reçoit ces barils, dont la Chine, qui se fournit du pétrole iranien. Ce qui fait dire à l'économiste Philippe Chalmin que le blocage du détroit ne devrait pas durer.
Il y a un pays qui a une énorme influence sur l'Iran qui s'appelle la Chine, qui importe l'essentiel du pétrole iranien et donc qui soutient directement l'économie iranienne. Et la Chine est peut-être le seul pays capable de siffler la fin de la partie.
Les attaques de navires et les tensions internationales freinent l'envie des armateurs de passer par ce détroit. Le prix du baril va sans doute augmenter, même si le marché avait déjà anticipé ces affrontements.
Le marché avait déjà mis dans son prix le risque que représentait la montée des tensions. On peut estimer que depuis 15 jours, le prix du pétrole a pris 10 dollars.
Actuellement à 67 dollars, le prix du baril pourrait grimper demain à 80 dollars, selon l'économiste, bien loin pour le moment des 147 dollars record en 2008. Autre enjeu commercial, les exportations mondiales de gaz naturel liquéfié, 20% transitent par le détroit d'Ormuz.
Et il faut ajouter que les intérêts français ont été touchés puisque des drones et un missile ont touché une base française à Abu Dhabi. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne se disent prêts à des actions défensives nécessaires et proportionnées afin de détruire, je cite, les capacités militaires iraniennes. Quant aux deux grands pays de la région, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils soutiennent l'opération militaire américano-israélienne. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Dans un communiqué officiel et lors de conférences de presse improvisées, le Premier ministre australien Anthony Albanese a notamment condamné le programme nucléaire et celui des missiles balistiques du régime des Ayatollahs, de même que les brutalités et les intimidations dont a été victime le peuple iranien. La mort de Khamenei ne sera pas pleurée, a-t-il dit. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a quant à elle demandé, je cite, « la reprise du dialogue et des négociations diplomatiques entre Washington et Téhéran ». Dans un communiqué, le Premier ministre néo-zélandais Chris Luxon et son ministre des Affaires étrangères Winston Peters ont quant à eux approuvé sans réserve les frappes américano-israéliennes contre l'Iran. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Elle concerne la situation internationale. Approuvez-vous l'intervention américano-israélienne en Iran? Si vous l'approuvez, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31 46.